Bienvenue fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangou, il est 18h, merci de rester à l'écoute du journal en français présenté par Diallo Maria Makenda. Bonsoir à la une de cette édition. Fin hier à Iférouane de la 13e édition du festival Le Laïr. Vous entendrez le ministre du Tourisme et de l'Artisanat sur la particularité de l'événement cette année. Le président Issoufou Mamadou est allé s'enquérir ce matin de l'état d'avancement des travaux du 3e échangeur de Niamey démarré le 15 décembre 2018. Le point avec le coordonnateur du projet, Djory Amani, dans un instant. Enfin, nous irons à Dosso ce soir dans votre partie magazine pour parler du schéma d'aménagement foncier à la faveur des états généraux du foncier rural qui se sont tenus du 13 au 16 février dernier. Messieurs, dames, le développement de tous ces titres et bien d'autres. Clôture hier dimanche à Iférouane, région d'Agadez, de la 13e édition du festival Le Laïr. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Ahmed Boto, explique sa particularité au micro de Moussa Maman.
La particularité de cette édition, c'est que, à part le premier ministre qui est son parrain, on a reçu beaucoup de personnalités qui nous sont venues des pays étrangers, comme l'Algérie, comme le Mali, comme l'Union africaine, de l'Éthiopie. Donc c'est extrêmement important, à notre avis, par rapport aux éditions passées. En plus de cela, même la chef traditionnelle du Niger a renforcé sa présence au festival, puisque l'année passée, ils étaient estimés à une quinzaine, cette année, ils sont plus d'une quarantaine. Donc ça veut dire que, de ce point de vue-là, le festival a connu un très grand engouement et surtout des très grandes personnalités qui sont venues au festival de l'Aïr. Ce qui renforce davantage les objectifs qui sont visés à travers ce festival, qui sont de nature à consolider la paix, à renforcer la cohésion sociale, à faire la promotion de la culture, à faire la promotion du tourisme. Donc je pense que cette édition, plus que toute autre en tout cas, regroupe toutes les conditions pour que le festival de l'Aïr soit un forum d'échange, un forum de concertation, bref, un rendez-vous de donner et de recevoir.
Vous venez d'entendre le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Ahmed Boto. Visite ce matin du président Issoufou Mamadou sur le chantier de construction du 3e échangeur de Niamey. Le chef de l'État est allé constater le niveau d'exécution de cet ouvrage démarré en décembre 2015 et appelé échangeur Djory Amani en hommage au premier président du Niger. Plus de précisions avec le coordonnateur du dit projet, Abba Nakwara Mahamadou Bachirou.
Actuellement, donc, les travaux sont pratiquement achevé. Nous sommes à 96% du volume qu'on s'est fixé. Ce projet consiste en la construction des trois grands ouvrages. Un ouvrage mixte qui doit assurer donc le trafic sur le boulevard La Liberté qui débouche sur le Grand Marché. Et vous avez un deuxième ouvrage qui se situe à la traversée du marché de Katako, donc pour faciliter donc la séparation du trafic en transit et celui qui va dans la destination du marché. Nous avons en plus de cela donc le grand ouvrage échangeur Djory Amani situé au niveau du rond-point Lako. Ces ouvrages à cette date-là sont pratiquement achevés. Il ne reste plus que les petits équipements, notamment l'éclairage public qui est déjà en cours et les travaux de chaussée. Tout ce volume de travaux, donc, on va les finir courant donc la première semaine du mois de mars. D'ici le 15 mars, tout sera bouclé.
Une conférence sur la sécurité se tient du 17 au 19 février 2018 à Munich en Allemagne. Les discussions ont porté sur le Brexit, les relations de l'Union européenne avec les États-Unis et la Russie, mais aussi les tensions au Moyen-Orient, au Sahel et en Corée du Nord. Au cours de cette conférence, le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, et le ministre des Affaires étrangères malien, Tiémen Hubert Koulibaly, ont souligné que la lutte contre le terrorisme devait aller de pair avec le développement de la région. La confiance de la population constitue en effet une garantie pour favoriser le succès des opérations militaires. Le centre de référence régional de santé mère et enfant d'Agadez, créé en 2015, est très sollicité aujourd'hui et confronté à de multiples difficultés. Notre correspondant Moussa Maman s'est intéressé. Voici son reportage.
L'État a déclaré par une loi la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans et aussi de la césarienne pour les femmes. Mais force est de constater que certaines femmes de la région d'Agadez continuent de payer toujours des ordonnances complémentaires.
On a été victime de la césarienne jusqu'à 2 fois au centre mère et enfant. Mais dans tout ça, on n'a pas eu le soutien des centres de santé. Même le seringue de 100 francs, on te prescrit une ordonnance pour les payer. Le problème qui a fait que j'ai accouché à la maison, j'ai pas d'argent. Mon mari est un talibé. On n'a pas la solution. Et pour accoucher dans un centre de santé, il faut payer 4000 francs plus 8 savons.
Pour les directeurs du centre régional mère et enfant d'Agadez, la gratuité des soins est une préoccupation. Mais les difficultés ne manquent pas. Écoutons Dr Nahasi Abdul Karim.
De l'ouverture du centre à aujourd'hui, nous avons transmis un cumul de 336 625 000 francs de factures à l'État et 0 francs n'a été remboursé. Nous faisons face à des difficultés des médicaments, des difficultés des entrants, tout ce qui est entrant, réactif, anesthésie qui sont autour de la césarienne. Nous avons également le problème de continuité de l'énergie électrique, mais le tout n'est pas d'avoir le groupe. Il faut le faire fonctionner.
Les centres régionaux de référence de santé mère et enfant d'Agadez comptent beaucoup sur l'aide de l'État et des partenaires, à savoir l'UNICEF, pour surmonter ces problèmes. Moussa Maman, Agadez, pour les studios Kalango.
Dans le cadre de la protection judiciaire des enfants qui sont en conflit avec la loi, le comité d'aide aux enfants de Filingué a procédé à un contrôle de routine auprès des écoles coraniques dans la ville. Pourquoi cette démarche? La réponse avec Hamissou Kaka, membre du comité au micro de Abdoulaye Bagassa.
Et dans nos visites de routine, nous avons fréquenté une école où nous avons trouvé un marabout qui a derrière lui pratiquement 64 élèves. Maintenant, pourquoi nous nous sommes précipités pour aller dans son école? C'est parce que nous avons appris qu'elle a perdu un des élèves. Arrivé là-bas, le constat était amer parce que nous avons trouvé 9 autres élèves qui sont couchés, ils sont malades et ces marabouts n'ont aucun moyen de le prendre en charge. Et comme l'indique le titre de notre comité, nous avons donc l'obligation et le devoir d'amener ces enfants-là pour des consultations médicales. Arrivé à l'hôpital, le médecin traitant nous a fait comprendre qu'il est pratiquement impossible de laisser partir 4 élèves parce que leur cas est grave. Le problème que nous faisons face aujourd'hui, c'est leur prise en charge.
Propos recueillis par Abdoulaye Bagassa. L'association Alternative Espace Citoyen et l'ONG Agir Plus organisent un forum sur la santé et l'éducation dans la région de Diffa. Hassan Boukar, coordonnateur national Alternative Espace Citoyen, au micro de Lawan Boukar.
Cette journée est l'aboutissement d'un processus que nous avons engagé depuis bientôt 7 mois avec l'accompagnement de Contrepartie Internationale. En tant qu'alternative et Agir Plus, et d'autres collègues ONG qui sont engagés dans ce programme gouvernance participative, nous avons travaillé de longues semaines avec nos bureaux régionaux dans 6 communes pour ce qui concerne la région de Diffa. Nous avons travaillé sur le thème du redéploiement du personnel enseignant. Vous en doutez, c'est un thème particulièrement important pour le système éducatif dans notre pays. Nous nous sommes intéressés à cette thématique et nous avons pendant tout ce temps travaillé à mettre en place des mécanismes qui permettent de mobiliser toute la communauté, tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de l'éducation afin qu'on puisse contribuer au redéploiement du personnel enseignant.
Propos recueillis par Lawan Boukar. Le syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur SNEX, section de Niamey, est depuis samedi en grève illimitée pour exiger la dissolution de la commission des affaires sociales des étudiants à l'université de Niamey-Kazo, dont les membres auraient agressé un enseignant le 7 février dernier. Salah Kala, secrétaire général adjoint de l'Union des étudiants UNUN, au micro de Tanan Fode Ahmed.
Le syndicat des enseignants-chercheurs aujourd'hui se trouve campé sur sa position. Ils sont en grève illimitée. Ils doivent savoir que dans tous les cas, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous sommes une communauté. Il n'existe pas d'enseignants-chercheurs sans étudiants. Il n'existe pas d'étudiants sans enseignants-chercheurs. Et donc, nous devons savoir que nous sommes une communauté qui est condamnée à vivre ensemble et qui doit se faire la complémentarité pour que nous puissions faire en sorte à ce que l'université puisse rayonner davantage et que les Niger puissent profiter de nos réflexions scientifiques pour se faire avancer. Nous avons eu à engager des négociations avec les syndicats des enseignants-chercheurs, nous avons eu à engager des négociations avec le rectorat de l'université de Niamey, nous avons eu à engager des négociations avec le ministère des enseignements supérieurs. Tout de même, il faut dire que les questions sont effectivement un peu compliquées, mais nous sommes sur la bonne voie. Inch'Allah, on arrivera d'ici peu à pouvoir débloquer cette situation.
Le studio Kalangu a tenté de joindre les représentants du SNEX, mais sans succès, leur siège était resté fermé ce matin. Parlons football. L'équipe féminine de football, les Gazelles du Niger, qui participent aux compétitions de l'UFOA, a perdu ses trois rencontres face au Burkina Faso 5-1, le Ghana 9-0 et la Côte d'Ivoire 7-0. Comment cette équipe a été composée et préparée avant cette compétition et qu'est-ce qui explique ces lourdes défaites? Soulé Dantani, ancien coach de l'équipe nationale féminine de football du Niger.
En 2001, il y avait jusqu'à 7 centres. Dans notre objectif, c'était de vulgariser la pratique du football féminin. Dans un premier temps, les centres qui existaient à l'époque ont été désactivés par la fédération actuelle. La fédération n'a pas un championnat. Burkina, ils ont 10 centres, pour ne pas dire 10 clubs. Niger, on a combien? On n'a rien. Club intérieur du pays existait, mais n'existe plus. Quand vous prenez Arlette, il y a M. Abdraman qui est entraîné à Kokana. C'est des filles. Avant, je fais un tournoi d'Agadez, Dosso, jusqu'à Koné et Malbaza. Et c'était comme ça, je le regroupais ici à Niamey. On fait un tournoi. La fédération ne donne aucun franc. C'est avec mes partenaires que je cherche. Ce qu'il faut faire pour restructurer le football féminin, il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments.
Propos recueillis par Gungu Moment Dantani. 12 équipes de football engagées dans le championnat national Ligue 1 se sont affrontées les samedis 17 et dimanche 18 février 2018. Les résultats. Match nul, un but partout entre AS Police de Niamey et Urana d'Arlit. Match nul, zéro but partout entre l'AS Douane de Niamey et Racine de Niamey. Un but pour Espoir de Zender contre zéro pour Entente de Dosso. Deux buts pour la JST de Tawa contre 0 pour l'AS Garde Nationale de Niamey. Un but pour l'US Gendarmerie Nationale de Niamey contre 0 pour l'AS Sonidep. Match nul, un but partout entre Olympique de Niamey et Akoukana d'Arlit. La partie magazine de ce journal à présent porte sur le schéma d'aménagement foncier à la faveur des États généraux de foncier rural qui se sont tenus du 13 au 16 février dernier.
Au niveau de la région, on a élaboré ce qu'on appelle le schéma d'aménagement foncier, les SAF. Et c'est des outils qui sont prévus dans le code rural. Chaque région doit en disposer. Et le SAF, par définition, c'est de préciser la vocation des espaces. Donc, dire ce terrain-là, il est là pour un privé ou bien cet espace est là comme une ressource partagée. Donc ça veut dire qu'en élaborant ce schéma d'aménagement foncier au niveau de la région de Dosso, ça nous a permis à l'état actuel de faire le point. Combien d'heures de pâturage nous avons? Combien de couloirs sur combien de kilomètres? Combien de sites maraîchers nous avons? Combien de sites Ramsar nous avons? Combien d'aires protégées, d'aires classées? Et ça nous a permis aussi d'avoir ce qu'on appelle le système d'information foncier, qui est là de façon numérique, hein, de telle sorte que si tu veux acheter une terre, il suffit seulement de prendre les coordonnées de cette terre, cliquer au niveau de ce système, ça va vous faire ressortir. Si déjà ça appartenait à quelqu'un, ou bien si ça appartient à une ressource publique, ça sort. Parce qu'il y a des gens qui ont pris goût à la vente de terres. Et malheureusement, certains acteurs qui devraient s'impliquer pour que la chose soit réglée, c'est même ces acteurs qui sont derrière. Il y a à peu près 2 ans, le président de la République même a mis sur pied un comité pour faire le point, en tout cas des terres que les gens se sont accaparées. Donc vous voyez, donc c'est pour vous dire qu'il y a la loi qui est là, là où elle existe, elle n'est pas appliquée. Et quand les gens tentent de l'appliquer aussi, il y a des difficultés. Parce que quelqu'un qui est à mesure de s'accaparer de 100 hectares, ça veut dire que c'est une grosse ponture. Hein? Il a le poids financier, peut-être même qu'il a le poids politique. Donc c'est tous ces aspects qui sont en train d'être dénoncés pour que vraiment les choses reviennent à la normale. C'est pour vous dire que c'est pas chose facile, mais on est là-dessus, on finira par trouver solution.
C'était Oumar Boubacar, premier vice-président du Conseil régional de l'OSSO, au micro de Soumana Amadou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez tout de suite Michel Dédi dans le forum du studio Kalangou. Il vous parle de propriété, hygiène et assainissement.